RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
L'Indonésie lance le livre « Route vers l'Afrique » pour faciliter la cartographie du potentiel en Afrique. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et la ministre des Finances Sri Mulyani, Indrawati, ont signé un mémorandum d'accord sur la coopération et le lancement du livre « Route to Africa » en marge de la mise en œuvre du Forum Indonésie-Afrique mardi à Nusa Dua, Bali. La ministre des Finances, Sri Mulyani, a salué le lancement de ce livre afin d'identifier les possibilités de développement de la coopération commerciale entre l'Indonésie et les pays en Afrique. Selon la ministre des Finances, l'Indonésie a fait besoin de nouveaux efforts pour améliorer la compétitivité et la productivité afin de stimuler une croissance économique plus élevée et plus équitable. Elle souhaite que le lancement du livre puisse devenir le premier pilote qui sera amélioré, de sorte que le peuple indonésien et toutes les parties puissantes trouvent le meilleur potentiel pour renforcer les relations commerciales avec l'Afrique.
Saya ini adalah suatu inisiatif bagus ya. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia untuk bisa memacu
C'est une excellente initiative pour stimuler la croissance économique plus élevée, plus équitable et plus inclusive. L'Indonésie devrait encourager les investissements et les exportations. Par rapport aux pays asiatiques, l'Indonésie doit mettre l'accent sur la compétitivité et la productivité et commencer à pénétrer le marché et de nouveaux produits. Avec le livre « Route vers l'Afrique » peut fournir une carte qui peut être utilisée par toutes les parties, en particulier les secteurs privés. Et par LPEI, pour identifier les potentiels de produits et des marchés qui peuvent être adressés. La ministre Sri Mulyani Indrawati espère également que le livre « Route vers l'Afrique » peut être développé en impliquant de nombreuses parties, y compris la communauté académique. Elle a dit que le développement a été fait non seulement pour identifier le potentiel d'exportation, mais aussi les efforts de développement du marché. Selon elle, l'Institut indonésien de financement des exportations, ou LPEI, pourra utiliser les instruments détenus pour pénétrer le marché en Afrique. Lors de l'ouverture de l'IAF 2018, le vice-président GK, Yusuf Kalla, espère l'établissement des orientations pour le développement de la coopération entre l'Indonésie et l'Afrique. Le vice-président Yusuf Kalla espère que le Forum Indonésie 2018 sera en mesure de cartographier la direction de la coopération croissante entre les deux parties. C'est ce qu'a affirmé par le vice-président Yusuf Kalla lors de l'ouverture du Forum Indonésie-Afrique mardi à Nusa Dua, Bali. Le vice-président a déclaré que l'Indonésie s'est fermement engagée à continuer d'accroître la coopération avec les pays de la région du continent africain. Le vice-président Yusuf Kalla assure même que, dans le cadre de la coopération en matière de coopération des ressources humaines, l'Indonésie augmentera les bourses pour les étudiants des pays africains, notamment en renforçant la coopération dans le domaine de connectivité et les accords commerciaux.
I welcome the fact that this forum will be produced concrete economic cooperation.
J'ai bien accepté le fait que ce forum produirait une coopération économique concrète à la fois dans le domaine de l'infrastructure, de l'industrie stratégique et du financement. La coopération commerciale qui est établie dans ce forum vaut plus de 500 millions de dollars, y compris l'autre coopération rentable qui suivra cette année. Il faut du travail dur pour suivre cette coopération. En 2019, la coopération entre l'Indonésie et l'Afrique se poursuivra à travers le dialogue Indonésie-Afrique sur l'infrastructure. Forum Indonésie-Afrique 2018, qui a eu lieu le 10 et 11 avril, est le premier forum entre l'Indonésie et 46 pays d'Afrique. Ce forum est une plateforme pour le gouvernement et les entreprises entre l'Indonésie et les pays africains pour explorer et intensifier la coopération économique et commerciale et promouvoir l'investissement et la coopération technique. Le vice-président Yusuf Kalla a transmis que l'amitié entre l'Indonésie et les pays africains, qui avait commencé depuis 1955, lors de la conférence afro-asiatique, devrait être renforcée. En 2017, la valeur de la coopération entre l'Indonésie et l'Afrique a atteint 8,85 milliards de dollars américains. Ce nombre a augmenté de 15,49% par rapport à l'année précédente. Si le CPO indonésien est interdit par l'Union européenne, le gouvernement adoptera la même politique. Après la victoire de l'Indonésie dans le procès sur les droits antidumping de biodiesel devant le tribunal de l'Union européenne, le gouvernement continuera à lutter pour l'huile de palme brute en provenance d'Indonésie. Bien que l'Indonésie ait gagné, le Parlement de ce pays a le projet d'effacer les importations d'huile de palme brute en provenance de l'Indonésie en 2021 à l'Union européenne. Le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, a déclaré que le gouvernement et le Parlement indonésien s'étaient entretenus avec le Parlement européen. En média, lundi, le 9 avril 2018, le ministre Enggartia Stolokita a déclaré qu'il a donné un avertissement et fera la même chose.
Untuk mereka juga menekankan bahwa kalau seandainya kita diganggu.
Pour eux, je souligne aussi que si nous étions dérangés, car en 2021, biodiesel en Europe, ils vont l'enlever, nous ferons aussi la même chose. Nous faisons partie de l'accord Union européenne, l'accord de partenariat économique global de l'Union européenne. Nous demandons des informations sur les commerces équitables. Nous allons juste avertir, si nous sommes dérangés, nous pouvons aussi nous venger. Enggartia Stolokita a expliqué que l'Indonésie a gagné plusieurs actions en justice dans plusieurs cas. Mais le biodiesel est toujours retiré de l'Europe. Selon lui, la raison de l'Europe d'arrêter d'importer de l'huile de palme brute d'Indonésie en raison de problèmes de durabilité. L'Indonésie et Singapour renforcent leur coopération dans la lutte antiterroriste. Le gouvernement indonésien, via l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, ou BNPT, renforcera la coopération avec le gouvernement singapourien dans la lutte contre le terrorisme. Les efforts de renforcement de cette coopération ont été discutés entre le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, BNPT, Suhardi Alius, et le vice-ministre de l'Intérieur de Singapour, Lai Chung Han, en tant également le vice-ministre singapourien de l'éducation au siège de BNPT, à Jakarta, lundi, le 9 avril. Suhardi Alius a déclaré dans un communiqué que le ministre a rendu visite dans le but d'intensifier la coopération dans la lutte contre les menaces terroristes, en particulier sur la question liée au ministre de l'Intérieur et au ministère de l'Éducation de Singapour. Selon Suhardi Alius, Singapour voulait apprendre de l'Indonésie sur les matériels liés à l'éducation qui pourraient contribuer au radicalisme. Singapour a également exprimé sa satisfaction pour le programme de radicalisation de l'Indonésie mené par BNPT et voulait imiter bien que le nombre de populations et l'action de terreur à Singapour sont moins que l'Indonésie. Pendant ce temps, le ministre Lai Chung Han a déclaré que sa visite pour rencontrer le chef de BNPT était de confirmer la coopération qui a été établie entre l'Indonésie et Singapour en termes d'éradication du terrorisme. L'Indonésie espère que le Maroc achèvera immédiatement le projet de APT proposé. Le gouvernement de l'Indonésie espère que le Maroc pourra achever immédiatement la discussion sur l'accord commercial préférentiel, ou APT, entre l'Indonésie et le Maroc. C'est ce qu'a déclaré par le ministre de Commerce, Enggar Tiasto Lukita, lors d'une réunion avec le vice-ministre des Affaires étrangères du Maroc, Mounia Bouseta, en marge de la mise en œuvre du Forum Indonésie-Afrique 2018 à Nusa Dua, Bali. Selon Enggar Tiasto Lukita, le Maroc a le même point de vue que l'Indonésie, qui suppose que la APT aura un impact positif sur le développement économique des deux parties. Il a indiqué que l'Indonésie et le Maroc sont l'un des pays de liaison qui joue un rôle important dans le maintien de la croissance économique, soit dans la région, soit dans le monde.
Yaitu yang pertama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Maroko dan dalam
pembicaraan. C'est la première avec le vice-ministre des Affaires étrangères du Maroc. Les pourparlers devait donner suite aux accords qui avaient été conclus lors de l'exposition commerciale de l'année dernière, qui est représentée par l'ambassadeur du Maroc en Indonésie. Il y a des choses qui sont livrées et qui seront bientôt suivies, c'est-à-dire que nous nous attendons à ce qu'elles puissent commencer à discuter du projet d'APT que nous devons leur transmettre. Vous de l'esprit, ils suivront, parce que le commerce n'est pas seulement nous au Maroc, et ils sont bien conscients. C'est comme nous avec le Chili, donc nous exportons au Maroc, et le Maroc va entrer sur le marché africain. En outre, le ministre du Commerce, Enggar Tiasto Lukita, a déclaré que lors de sa rencontre avec le vice-ministre marocain des Affaires étrangères, il a également accepté une invitation à participer à une mission commerciale au Maroc prévue pour la fin du mois de juin. Le ministre du Commerce espère que les activités de la mission commerciale au Maroc se traduiront par une coopération commerciale concrète afin d'améliorer l'économie nationale.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Les efforts pacifiques en Syrie sont plus loin. Le peuple syrien souffrira toujours de la guerre prolongée dans le pays. L'attente concernant le recul de bombardements dans certaines zones, avec la mise en place d'un cessez-le-feu, n'est pas encore matérialisée. Il y a eu un autre attentat à la bombe à l'une des bases aériennes syriennes, Atias, qu'on pense que c'est une base utilisée par la Russie, alliée du gouvernement syrien. Le gouvernement syrien a déclaré que l'attentat à la bombe que l'avion de chasse avait laissé tomber, cela avait été fait par les États-Unis. Un autre allié, l'Iran, a également déclaré que cette attaque avait été menée par les États-Unis. Mais Washington ne reconnaît pas ces allégations. Mais l'allié des États-Unis, l'Israël, on ne sait pas encore qui l'est coordonné ou non, a frappé une base aérienne syrienne près de la ville de Homs et a tué au moins 7 personnes. Dans une déclaration, le gouvernement iranien a déclaré que l'attaque américaine était basée sur des raisons qui ne correspondent pas aux faits. La semaine dernière, des rumeurs circulaient selon lesquelles le gouvernement syrien lançait une attaque en utilisant des substances chimiques. Selon l'agent de presse iranienne officielle, IRNA, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Kassemi, a déclaré que les États-Unis et les pays occidentaux avaient fait des allégations d'attaques chimiques au gaz comme la raison pour laquelle ils prennent des mesures militaires contre Damas. Bahram Kassemi a confirmé que ces allégations étaient fausses. L'Iran est un partisan du président syrien, Bachar al-Assad, dans une guerre contre les insurgés soutenus par les États-Unis et ses alliés. Les pays soutenants d'adversaires du gouvernement de Bachar al-Assad ont condamné l'utilisation d'armes chimiques à Douma, la ville qui est devenue leur base de défense. De Berlin, le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Seeberg, a déclaré que son gouvernement a condamné l'utilisation de gaz toxiques. L'Allemagne a confirmé que le président syrien, Bachar al-Assad, est responsable de l'attaque. Le gouvernement Bachar rejette des allégations d'attaque avec des armes chimiques dans la province contrôlée par les agrandisseurs du régime de Bachar. La question de l'attaque chimique qui a été suivie par des frappes aériennes en Syrie a prouvé que la tourmente en Syrie est encore difficile à résoudre. Les problèmes dans le pays ont impliqué plusieurs autres pays. Par conséquent, la guerre ne finit jamais et a tué beaucoup de civils. Enfin, c'est le peuple syrien qui porte les conséquences. Voilà le commentaire.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Serviteurs, pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement, la création de l'Organisation internationale du travail, OIT, le 11 avril 1919. L'Organisation internationale du travail est une organisation qui vise à résoudre les questions internationales de travail en vertu de l'ONU. L'OIT est fondée le 11 avril 1919 au sein de l'accord de Versailles après la Première Guerre mondiale. Cette organisation fait partie de l'Organisation des Nations Unies après la dissolution de la Société des Nations et la création de l'Organisation des Nations Unies à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec la déclaration de Philadelphie en 1944, cette organisation a fixé l'objectif. Le secrétariat de l'organisation est connu comme le Bureau de travail international. L'OIT a reçu le prix Nobel de la paix en 1969. Comme un État souverain, l'Indonésie devient le membre de l'OIT le 11 juin 1950. L'autre information est sur Apollo 13 a été lancé vers la Lune le 11 avril 1970. Apollo 13 est la mission d'atterrissage sur la Lune, une partie du projet américain Apollo de la NASA qui est lancé le 11 avril 1970. L'explosion au réservoir de carburant de l'avion se produit après le voyage de 56 heures sur la Lune ou à une distance de 330 000 km de la Terre. Heureusement, les trois astronautes ne sont pas blessés. Ils doivent interrompre l'atterrissage sur la Lune et à de revenir sur Terre. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'Israël bombarde des positions du Hezbollah au Liban le 11 avril 1996. Le 11 avril 1996, des avions et des hélicoptères israéliens ont mené des opérations aériennes à Beyrouth, au Liban, pour la première fois depuis près de 14 ans. Au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs ont été blessées dans l'attaque dans la vallée de la Beka, bastion du Hezbollah, Iklim al-Tufa au Liban du Sud et la route entre Beyrouth, Sidon et Tyr. Serviteur, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « La plage de Balikpapan peut être visitée par les touristes ». Lundi 9 avril, le maire intérimaire de Balikpapan, Rahmat Masoud, pourrait inviter les habitants à visiter la plage et les eaux de son territoire qui, selon lui, est maintenant nettoyée des fuites de l'oléoduc de Pertamina. Les pipelines sous-marins de Pertamina étaient détruits le 31 mars, provoquant l'inondation d'environ 40 000 barils de pétrole dans les eaux de la baie de Balikpapan et du détroit de Makassar à l'embouchure de la baie de Balikpapan. Les déversements d'hydrocarbures rendent l'eau de mer contaminée par la matière noire, épaisse et malodorante comme le diesel. Dans environ la semaine dernière, la compagnie pétrolière de Pertamina, Chevron, Petrosi et des milliers d'habitants de Balikpapan ont ensuite essayé de nettoyer la fuite de pétrole brut. Rahmat Masoud a déclaré « Pour assurer les conditions de la baie de Balikpapan et les eaux environnantes sont propres, Pertamina surveille de l'air en plus de déployer des bateaux de patrouille dans la mer. » Le responsable des communications et du CSR régional de Kalimantan de Pertamina Société Anonyme, Yudi Nugraha, a déclaré que sur la base des résultats des contrôles directs sur le terrain et des tirs dans les airs, le résultat de la côte de Balikpapan est propre au déversement de pétrole. À cette fin, Pertamina a réduit le nombre de navires déployés pour nettoyer la baie de 21 à 17 unités. Le personnel affecté aux opérations de nettoyage a également été réduit de 234 à 170 personnes. Yudi Nugraha a ajouté, Pertamina continue de surveiller et d'inspecter la condition de l'air. Dimanche, à l'ouest de Balikpapan, le niveau d'oxygène se situe dans la limite normale, à savoir 19,23%. La teneur en carbone au-dessous à 20 ppm, le gaz combustible ou le gaz inflammable outre l'oxygène est inférieur à 5% du niveau de limite d'explosif ou LEL et H2S au-dessous de 10 ppm. Il a dit que l'opération de nettoyage est maintenant concentrée sur les zones résidentielles telles que Kampung Atas Air Margasari à Kampung Baru Ujung, les établissements côtiers avec des maisons sur pilotis affectées par la contamination par le pétrole. Les résidents eux-mêmes ont enlevé dimanche des ordures contaminées par du pétrole brut sur leurs maisons. Ce qui est encore difficile à nettoyer, c'est l'huile qui colle aux racines et aux feuilles des mangroves. Les mangroves de Margasari constituent une barrière entre les colonies et les raffineries pétrolières contaminées par des déversements de pétrole. Pertamina a ensuite envoyé un camion aspirateur de pétrole pour nettoyer les eaux après avoir pulvérisé des dispersants sur la surface de l'eau contaminée. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Serviteur, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au magazine culturel en programme quotidien sur le tourisme, les alimentations, les arts et la culture des diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons l'un des objets touristiques dans la province de Nusa Tenggara Est. Restez à l'écoute. La province de Nusa Tenggara Est a une nature exotique. Même la nature à Nusa Tenggara Est est reconnue dans le monde pour avoir un paysage naturel exotique et incroyable. La beauté de la nature dans la province jusqu'à maintenant est encore discutée par les touristes nationaux et étrangers de diverses communautés. L'une d'elles est la grotte de Rangko. La grotte de Rangko est située au village de Rangko, le district de Boleng, la résidence de l'ouest de Manggarai, à l'est de Nusa Tenggara. Bien que récemment cet objet touristique a été discuté dans les médias sociaux, cet objet touristique en conserve encore naturellement. La grotte de Rangko est l'un des objets de tourisme qui se trouve sur un terrain qui peut se connecter à l'île de Komodo. Pour cette raison, cet endroit est approprié pour être destination après ou avant de visiter le parc national de Komodo. En visitant la grotte de Rangko, vous serez surpris par la beauté de la nature dans la grotte. En entrant dans la grotte, un paysage bleu de la piscine des sources d'eau claire vous accueillera. Les sources d'eau claire comme si vous invite à sauter et à jouer de l'eau dans sa piscine. Si vous voulez profiter du paysage et nager à la grotte de Rangko, nous vous suggérons de venir entre 13h et 15h heure locale. C'est parce que la grotte est assez sombre, donc seulement à ce moment-là, la lumière du soleil pénètre parmi les fissures de la grotte. Au village de Rangko, vous pouvez conduire en voiture ou en motocycle de Labuan Bajo. En arrivant au village de Rangko, vous pouvez continuer votre voyage en louant un bateau à la population locale. Les frais qui doivent être payés sont d'environ 300 000 rupiah. Vers la grotte Rangko, de la passerelle doit être à travers un long pont qui se connecte à un quai. Le voyage prend 15 minutes en marchant. Après ça, vous entrerez dans la zone de la grotte. À l'endroit, vous serez à travers la forêt et les falaises glissantes. À cause de cela, pour attendre que la grotte de Ranco, il faut faire attention. Chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir, le magazine culturel, avec le titre « La grotte Ranco, le trésor caché de la province de Nusa Tenggara Est ». Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'indonésien », un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie, l'Agence pour le développement de la langue et le ministre de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Musim, ou en langue française, saison. Bon, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Musim, ou en langue française, saison. Tony. Cuacanya panas sekali. Mandu wisata. Ya, sekarang sedang musim kemarau. Tony. Oh, di Indonesia ada dua musim, benarkah? Pemandu wisata. Ya, musim kemarau dan musim hujan. Après avoir écouté la conversation, je vais présenter le vocabulaire, les expressions et les phrases reliant au sujet d'aujourd'hui. Ce sont musim ou en langue française, saison. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Cuacanya panas sekali. Cuacanya panas sekali. En français, il fait très chaud. Musim kemarau. Musim kemarau. En français, saison sèche. Musim hujan. Musim hujan. En français, saison de pluie. Di Indonesia. Di Indonesia. En français, en Indonésie. Ada dua musim. Ada dua musim. En français, il y a deux saisons. Sekarang sedang musim kemarau. Sekarang sedang musim kemarau. En français, maintenant c'est la saison sèche. En Indonésie, il y a deux saisons. Ce sont la saison sèche et la saison des pluies. En indonésien, si vous sentez que le temps est chaud, vous pouvez dire cuacanya panas. Cuacanya panas. Ou en langue française, il fait chaud. Si le temps est froid, vous pouvez dire cuacanya dingin. Cuacanya dingin. Ou en langue française, il fait froid. Si vous sentez que le temps est très chaud, ajoutez le mot sekali après l'adjectif. Par exemple, cuacanya panas sekali atau cuacanya dingin sekali. Cuacanya panas sekali. Ou en langue française, il fait très chaud. Ou cuacanya dingin sekali. Ou en langue française, il fait très froid. Avant de terminer apprendre la langue indonésienne aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois. Tony, cuacanya panas sekali. Pemandu wisata. Ya, sekarang sedang musim kemarau. Tony, oh, di Indonesia ada dua musim, benarkah? Pemandu wisata. Ya, musim kemarau dan musim hujan. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre la langue indonésienne pour ce soir. On espère que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Pour un exercice, envoyez votre enregistrement vocal dans la langue indonésienne à notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un prix attrayant pour les expéditeurs sélectionnés. L'exercice consiste à saluer, dire votre nom, votre pays, votre adresse et votre aliment préféré. Par exemple, Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya, nasi goreng. Rendez-vous demain avec un autre sujet intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Cette édition va vous présenter les chansons d'un groupe de musique s'appelle Kuburan Band. Pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, écoutons leur chanson intitulée Lupa Lupa, Tapi Ingat. Bonne écoute.
Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebur. Bukan nyanyi tulo-tulo, mari kita nyanyi yo.
Kece lagi.
Chers amis, voilà la chanson intitulée Lupa-lupa tapi ingat par Kuburan Band, un groupe qui existe sur la scène musicale indonésienne depuis 2001. Le 11 septembre 2001 a été choisi comme l'anniversaire de ce groupe pour commémorer la tragédie du World Trade Center aux États-Unis. Les membres sont 6 étudiants de l'Université de Parahyangan, Bandung. Ils sont Priya comme chanteur, Raka comme guitariste, Doni comme guitariste, Deni comme bassiste, Ude comme claviériste et Dino comme batteur. Les 6 membres présentent la musique metal hydraulique, un genre qu'ils ont créé eux-mêmes. Le genre metal hydraulique est défini comme metal de haut en bas, sans une direction définie. C'est parce que leur musique contient des nuances de metal, de pop, de rock et aussi de dangdut. Les paroles de leurs chansons semblent humoristiques. Ils utilisent des langues indonésiennes et locales. En 2011, ces 6 membres du personnel ont dissous leur groupe pour un moment. En conséquence, ils travaillent toujours comme The Cubes. Chers amis, la suite, nous vous présentons la chanson de Coupe, dont le titre est Jessica. Bonne écoute!
Tangan biru melepas dirimu, pendamkan rinduku, pergilah menuntut ilmu. Sakit, perih, sangat perih. Kau wanita penuh diri. Yeah.
Chers auditeurs, voilà la chanson intitulée Jessica par The Coupe. Quand le groupe apparaît dans le programme de musique de télévision, ils attireront immédiatement l'attention des téléspectateurs. Pas seulement parce que leurs chansons sont drôles, mais leurs looks sont aussi uniques. À chaque apparition, les visages du personnel de ce groupe sont toujours couverts dans le style des bandes de métal. Beaucoup de gens pensent que l'inspiration de leur performance est Kiss, un groupe des États-Unis. Mais apparemment, leur maquillage s'inspire de Ria Jenaka, un célèbre groupe d'humour indonésien. Sous le nom de Coupe, ils apparaissent avec des maquillages farfelus et des costumes plus colorés. Bon, chers amis, voilà l'édition du magazine musical d'aujourd'hui sur Kuburan Band ou The Coupes. Pour terminer la rencontre d'aujourd'hui, nous allons vous donner deux chansons intitulées Tua Tua Clubbing et Maling. Bonne écoute et à la prochaine!
Pergi ke diskotik, niat mau ayo jeng. Garis-garis, tangannya di atas ya. Hey, cowok-cowok, tangannya dijaga. Dan joget sama Pak Kumis.
Everybody dance now.
Oh, Dracula, jangan bunuh aku. Oh, aku tak mau mati di tanganmu. Oh, Dracula, kasihanilah aku. Oh, aku tak mau mati di tanganmu. Besok
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Dengarkan Daddy back.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.